Au sommaire du radioblog de cette semaine. Scandale à Montréal, où j'apprends que mon cellulaire n'était pas surveillé par le SPVM. Défi musical. Aujourd'hui, nous tenterons de trouver une bonne toune sur le dernier album de Safia Nolin. Safia Nolin. Patrick Lagacé. Sérieusement, vous avez vraiment envie qu'on parle de ça? Non. En fait, ce 19e épisode sera consacré pas mal qu'aux élections américaines. Et on commence ça drette là. Bonjour à tous, mon nom est Jean-Philippe Rousseau, je vous souhaite la bienvenue à ce 19e épisode du radioblog de Québec Presse. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui s'ajoutent à la grande famille du radioblog, qui me suivent semaine après semaine. Et d'ailleurs, en parlant de semaine après semaine, je voudrais m'excuser. Il n'y a pas eu de radioblog la semaine dernière. D'habitude, j'enregistre le dimanche parce que c'est la fin de semaine, un peu plus de temps. Le problème, c'est que la semaine passée, j'étais un peu pris justement par le temps dimanche, je n'ai pas pu enregistrer. Je m'étais quand même pas mal préparé et puis je m'étais dit, je vais faire ça lundi, comme ça arrive de temps en temps. Rendu à lundi, je regarde les sujets et puis l'un des sujets était quand même les élections américaines. Je voulais faire ma prédiction, qui aurait été mauvaise d'ailleurs en passant, mais c'est comme beaucoup de monde. Vous avez été quelques-uns depuis le mois d'août, surtout depuis le mois d'août, depuis en fait les conventions républicaines et démocrates, à m'envoyer de temps en temps des messages ou des courriels et puis vous me demandiez mon avis sur les élections américaines ou ma prédiction, qui allait gagner et pour qui j'irais voter si j'étais un électeur américain. La semaine dernière, je comptais me répondre à toutes ces questions-là. Mais dans un premier temps, je peux quand même en parler rapidement. Je pense que j'aurais fait un George Bush de moi-même, c'est-à-dire que je n'aurais pas voté pour un candidat à l'élection présidentielle, que ce soit Hillary Clinton ou Donald Trump. Il n'y a aucun des deux candidats qui m'intéressait, qui était... c'est sûr que la candidate démocrate, encore moins. Je n'ai jamais été proche des démocrates, mais ça, je pense que c'est une surprise pour personne. Donald Trump, sérieux, c'est pareil. C'est pas... Je suis pas mal éloigné de ses positions économiques en particulier, puis sociales aussi, en tout cas, sur pas mal de points. Je me serais pas vu voter pour Donald Trump. Qui je pensais voir gagner? Je vous l'ai dit, je pensais que ça allait être Hillary Clinton, mais il faut avouer aussi que j'ai changé à peu près 15 fois d'opinion depuis en particulier les conventions républicaines et démocrates. Et puis même la journée même du vote, je pense que j'ai changé deux ou trois fois d'idée. Mais je me disais finalement, c'est allé dans le bureau de vote, peut-être que certains électeurs américains allaient avoir un peu peur de leur choix et allaient se résoudre à voter pour un candidat beaucoup plus consensuel, beaucoup plus... Le candidat de la continuité, c'est-à-dire Hillary Clinton. Je me suis trompé, comme beaucoup. C'est ça. C'est une aussi des raisons pour lesquelles je ne voulais pas trop parler des élections américaines, parce que, comme je vous l'ai dit, aucun des deux candidats m'emballait vraiment. Et puis, comme vous pouvez voir, je n'ai pas vraiment suivi les élections américaines. Pas que ça soit inintéressant, le débat en tant que tel peut être très intéressant. Le problème, c'est que ce débat était porté par deux candidats qui ne l'étaient pas intéressants. Le phénomène qui est en train de commencer, le phénomène Trump, est très intéressant. Mais ça, on va y revenir tantôt. Je voudrais aussi, cette première partie du podcast, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un fourre-tout. C'est une sorte d'introduction où on peut parler de la température du match de hockey de la veille. On peut parler de sujets qui ne seront pas traités de façon formelle dans ce podcast. Je voudrais aussi profiter de cette journée pour me souvenir de toutes les personnes qui ont combattu pour défendre nos libertés. Vendredi, c'était la journée du 11 novembre, qui est le jour du souvenir. Et je trouve qu'on n'en fait pas encore assez pour se souvenir des combattants d'hier, d'aujourd'hui et de demain qui iront risquer leur vie, parfois même la perdre, pour sauver notre petite fesse tranquillement assise sur nos sofas en train de regarder la voie. Donc je voudrais rendre hommage à tous ces anciens combattants et évidemment en particulier aux soldats canadiens qui se sont battus pour sauver mon coin de pays pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a en Europe beaucoup trop de tombes de soldats canadiens. Et je voudrais aujourd'hui leur rendre hommage. Et croyez-moi bien... J'y pense très régulièrement et pas juste le 11 novembre. Merci. Si jamais il y a à l'écoute des vétérans ou des militaires, je voudrais juste leur dire merci. Merci pour votre sacrifice. Peut-être que d'autres oublieront, mais moi, je n'oublierai jamais. Journée souvenir aussi, nous sommes le 13 novembre aujourd'hui, dimanche 13 novembre. Je voudrais également me rappeler de ce qui s'est passé il y a un an, jour pour jour, à Paris. C'était les attentats. Deux engins explosifs qui ont explosé donc aux abords du Stade de France. Des tirs à l'arme automatique sur des terrasses de cafés, de bars et de restaurants dans le 10e arrondissement de Paris. Et puis, évidemment, l'attaque contre la salle de spectacle du Bataclan. Cette salle de spectacle qui va rouvrir là, bientôt avec un concert de Sting. Donc, c'est aussi une façon de se souvenir des 130 personnes tuées et des très nombreux blessés de ces attaques terroristes islamiques. Contre les démocraties, parce que ce n'est pas juste la France qui a été attaquée le 13 novembre 2015. C'est nos démocraties, nos façons de vivre. Je me dis que demain, ça pourrait se reproduire, parce que je pense que ce qui a été mis en place, en particulier par les autorités françaises, mais aussi en Europe, n'ont pas pu empêcher d'autres attaques. Et il n'y a qu'à penser à l'attaque de Nice le 14 juillet dernier, qui a fait quelque chose comme 80 morts, si ma mémoire est bonne. Bon, on ferme cette parenthèse un peu plus triste. Je voudrais faire une salutation particulière à FBI du réseau Antispin, qui anime l'émission La Coche, tous les lundis à 20h sur Radio H2O, que je vous conseille très fortement d'écouter. Une émission live, donc non enregistrée comme la mienne. À l'émission La Coche, FBI a fait une très belle plug en ce qui concerne mon podcast, celui que vous écoutez en ce moment, puis j'aimerais le remercier beaucoup. C'était très gentil de sa part. Bien content que mon podcast lui plaise et bien content de voir aussi que vous êtes chaque semaine plus nombreux à m'écouter. C'est le fun, c'est vraiment le fun. Comme tous les podcasteurs, je le répète, je suis toujours un peu frustré de ne pas trop recevoir de messages, mais c'est tellement normal. Même les podcasts les plus écoutés, les plus populaires, ne reçoivent pas tant de messages que ça. Parce que quand on écoute un podcast, bien, on conduit, on est dans le bus, on est au travail, on est en train de ramasser nos feuilles. C'est pas facile de pouvoir réagir comme ça en envoyant un courriel ou un message Facebook. Mais je vous invite à le faire, évidemment. Vous avez le moyen le plus simple, je pense, c'est la page Facebook de Québec Presse. Vous avez aussi le courriel. L'adresse, c'est podcast@québecpresse.com, podcast@québecpresse.com. Donc, je remercie beaucoup FBI du réseau Antispin. Vous pouvez le suivre sur Twitter, d'ailleurs. Ça s'appelle, c'est réseau Antispin, tout attaché. L'émission La Coche, chaque lundi à 20h sur Radio H2O. On commence tout de suite donc à rentrer dans le vif du sujet avec les élections américaines. On va faire ça comme du monde, comme les réseaux d'information très sérieux. On va partir des faits. Là, je me trouve sur le site du New York Times. Je vous le rappelle, nous sommes le dimanche 13 novembre, c'est-à-dire un peu moins d'une semaine après les élections. Et là, j'essaye d'avoir le décompte vraiment clair du nombre de votes par candidat. Ce que je vois sur la page du New York Times, c'est que Donald Trump est donné gagnant avec 290 grands électeurs et 228 pour Hillary Clinton. Je vous rappelle que ça en prend 270 pour gagner, mais quand je regarde un peu dans le détail, on voit que encore aujourd'hui, donc dimanche, il y a des États où tous les votes n'ont pas été dépouillés. Il y a beaucoup de 99% des bulletins dépouillés. Il y en a quand même pas mal, comme l'État de New York, le Connecticut, l'Iowa, New Jersey, l'Oregon, l'Iowa, la Pennsylvanie, la Virginie, puis quelques autres. Vous avez deux États en particulier, l'État de Washington, 83% des bulletins dépouillés, 83%. Il donnait gagnant pour Hillary Clinton à 55%. Pas grand suspense là-dedans. Et puis, 82% des bulletins dépouillés dans l'Utah qui seraient donnés aux républicains, donc à Donald Trump, à hauteur de 47%. Wow, 47%. Me dit, c'était pas la majorité, mais en fait, il y en a 28% pour Hillary Clinton, 21% pour les autres, c'est-à-dire sans doute pour Gary Johnson et puis la candidate, j'ai oublié son nom, mais enfin, ça n'a pas d'importance. C'est impressionnant, l'Utah est pas mal partagé, républicain quand même, mais 21% pour les autres candidats, je ne sais pas si c'est le plus grand score. A priori, oui, c'est le plus grand score des autres candidats, des candidats de... Bref, je ne sais pas comment les appeler. Candidats indépendants, on va dire. Voilà. Donc, quand on regarde le nombre de votes, par contre, il y a un petit avantage pour Hillary Clinton. Hillary Clinton a pour l'instant 60 966 953 votes, tandis que Donald Trump a 60 328 203 votes. Il y a une marge d'un peu plus de 600 000 voix. C'est sûr que 600 000 voix pour le Québec, par exemple, ça serait quand même très gros, très important. Mais pour les États-Unis, c'est pas grand-chose. 600 000 voix, ça reste quand même... on peut dire, sans être très loin de la vérité, que les deux candidats ont été au coude à coude dans cette élection. Et que tout s'est joué, dans le fond, au niveau des grands électeurs. Ça, c'est pour les faits. Maintenant, c'est sûr que je ne veux pas être très original, ça a été quand même une grosse surprise, cette élection. Ça a été un peu dans tous les sens. Et là, je veux absolument vous lire quelques extraits d'une entrevue qui a été faite par le Figaro, qui est un grand quotidien français, plutôt conservateur, mais on dira centre-droit. Ça reste quand même un quotidien assez consensuel, qui avait fait une entrevue avec Laure Mandeville. Laure Mandeville, qui est elle, c'est une journaliste qui est correspondante pour le Figaro dans les bureaux aux États-Unis depuis 2009. Donc, elle connaît quand même bien les États-Unis. Et elle a pu suivre le candidat Donald Trump pendant toute la campagne électorale et elle a écrit un livre qui s'appelle « Qui est vraiment Donald Trump ?». Je vais vous lire les extraits d'une entrevue qu'elle a faite avant les résultats électoraux. Et il y a quelques passages. En fait, toute l'entrevue est très, très bonne. J'essaierai de vous mettre le lien dans le podcast. Et elle parlait de Trump. Je cite. « La grande difficulté avec Donald Trump, c'est qu'on est à la fois face à une caricature et face à un phénomène bien plus complexe. Une caricature d'abord car tout chez lui semble magnifié. L'appétit du pouvoir, l'ego, la grossièreté des manières, les obsessions, les tweets épidermiques, l'étalage voyant de son succès sur toutes les tours qu'il a construites et qui portent son nom. Donald Trump joue en réalité à merveille de son côté caricatural. Il simplifie les choses, provoque, indigne, et cela marche parce que notre monde du XXIe siècle se gargarise de ses simplifications outrancières, à l'heure de l'information immédiate et fragmentée. La machine médiatique est comme un ventre qui a toujours besoin de nouveaux scandales et Donald, le commercial, le businessman, si on pourrait dire, le sait mieux que personne. Parce qu'il a créé et animé une émission de télé-réalité pendant des années, il sait que la politique actuelle est un grand cirque où celui qui crie le plus fort a souvent raison parce que c'est lui qui fait le buzz. C'est bon. Et c'est vrai. Donald Trump, il connaît la société américaine. Ça fait 30 ans que tous les Américains connaissent Donald Trump. Il y a sa télé-réalité, évidemment, mais il a fait les couvertures du Times, il a fait les couvertures de plusieurs médias. Il était omniprésent dans tous les galas, dans toutes les soirées mondaines. Il était là. Il sait comment ça se passe aux États-Unis. Il sait où est rendue la politique américaine. Et il en a profité. En cela, je ne voudrais pas dire que c'est un génie. Parce que dans le groupe des génies, on a des gens comme Einstein, on a des gens comme des grands scientifiques. On ne va pas mettre Donald Trump là-dedans. Mais au niveau médiatique, il est brillant. Il a su très bien orchestrer son personnage, parce que c'est un personnage. Je continue les propos de Laure Mandeville. Derrière l'image télévisuelle simplificatrice se cache un homme intelligent, rusé et avisé, qui a géré un empire de milliards de dollars et employé des dizaines de milliers de personnes. Grâce à ses instincts politiques exceptionnels, il a vu ce que personne d'autre, à part peut-être le démocrate Bernie Sanders, n'avait su voir. Le gigantesque ras-le-bol d'un pays en quête de protection contre les effets déstabilisants de la globalisation, de l'immigration massive et du terrorisme islamique. Sa peur du déclin aussi. En ce sens, Donald Trump s'est dressé contre le modèle dominant plébiscité par les élites et a changé la nature du débat de la présidentielle. Il a remis à l'ordre du jour l'idée de protection du pays en prétendant au rôle de shérif aux larges épaules face aux dangers d'un monde instable et dangereux. Cela révèle au minimum une personnalité sacrément indépendante, un côté indomptable qui explique sans doute l'admiration de ses partisans. Ils ont l'impression que cet homme explosif ne se laissera impressionner par rien ni personne. Beaucoup de gens qui le connaissent affirment d'ailleurs que Donald Trump a plusieurs visages, le personnage public, flashy, égoïste, excessif, qui ne veut jamais avouer ses faiblesses parce qu'il doit vendre sa marchandise, perpétuer le mythe, et un personnage privé plus nuancé, plus modéré et plus pragmatique, qui sait écouter les autres et ne choisit pas toujours l'option la plus extrême. Toute la difficulté et tout ce mystère pour l'observateur est de s'y retrouver entre les différents Trump. Il a su, comme le dit Laure Manville, il a su voir où était rendu le ras-le-bol américain. Tu sais, les gens aigris, les gens qui sont un peu laissés pour compte, les gens qui sont fâchés, il y en a toujours eu à toutes les époques. Et il y a toujours des hommes politiques pour écouter ces gens-là. Mais souvent, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas rendu à un niveau de ras-le-bol qui justifie une élection présidentielle. Trump, je pense, est arrivé à un moment donné où la cassure entre l'élite, entre guillemets, américaine et le peuple, le point de rupture était lol. Il ne fallait pas grand-chose pour briser cette harmonie factice entre les élites et le peuple américain. Et je pense que lorsque Trump a vu que c'était Hillary Clinton qui allait sans doute être la candidate investie par les démocrates. Je pense qu'il s'est dit, là, c'est ma chance. Clinton n'était pas aimé par les Américains. Même pas par les partisans démocrates. Elle a remporté l'investiture démocrate de justesse. Il faut s'en rappeler quand même. Bernie Sanders a été un candidat assez difficile à battre. On apprend d'ailleurs ces dernières semaines qu'une journaliste de CNN a avoué avoir transmis au clan de Clinton les questions avant un débat entre les deux candidats démocrates. C'est quand même grave. Lorsque vous connaissez les questions avant un débat, comprenez que vous avez un avantage certain. Quand on vous demande, je ne sais pas, je vais inventer quelque chose, une école qui a été détruite par un incendie dans le fin fond de l'Iowa. Et puis, une des questions, c'est... comment comptez-vous gérer les choses? Si vous êtes déjà au courant, imaginez une Hillary Clinton dire « Ah ben justement, j'en parlais pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier avec mes collaborateurs et j'ai appelé le gouverneur de l'État pour lui demander qu'est-ce qu'il comptait faire, par exemple. » Et Bernie Sanders de dire « Écoutez, je suis pas au courant, je vais me renseigner, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette école. » Tu sais, vous comprenez l'avantage qu'il doit y avoir, qu'il peut y avoir à connaître les questions dans un débat alors que votre adversaire ne les connaît pas. Et les électeurs de voir une candidate, Hillary Clinton, bien connaître ses dossiers. Non, elle ne connaît pas bien ses dossiers, elle connaît bien les questions qu'on va lui poser. C'est une grande différence. Le problème, c'est que lorsqu'elle était secrétaire d'État, elle a justement démontré qu'elle ne connaissait pas bien les dossiers concernant les affaires étrangères, la diplomatie. Ça a été une accumulation de ratés. Et ça, ça a été tout le mandat d'Obama, dans le fond. Et d'ailleurs, on y vient à Barack Obama. Ce qui s'est passé mardi, ce n'est pas juste l'élection de Donald Trump, puis la défaite d'Hillary Clinton. La Chambre des représentants va rester républicaine. Le Sénat est républicain. Les gouverneurs vont être majoritairement républicains. Et ça, ce n'est pas juste Donald Trump. C'est aussi la faillite d'une politique menée par Obama ces 8 dernières années. C'est la faillite du clan Obama qui n'a pas su écouter les Américains. Tu sais, on dit que c'est une certaine Amérique. Je voyais la une, je pense, du Journal de Montréal ou Journal de Québec qui parlait de ces blancs en colère qui ont voté pour Donald Trump. Excusez-moi, quand on regarde certains États, des États qui étaient gérés par les démocrates et qui ont été touchés de plein fouet par la crise, dans un pays géré par Barack Obama depuis 8 ans, celui qui nous disait, il n'y a pas si longtemps, c'était en 2008, « Yes, we can ». Yes, we can. On voyait des yes, we can partout. Les gens allaient même jusqu'à changer leur photo de profil sur Facebook pour ressembler à l'affiche, le pamphlet, la photo de Barack Obama. Vous vous souvenez, en bleu et rouge. Belle affiche stylisée qui sentait bon la propagande des années 40, quasiment, 60. Yes, we can. Hope. C'était ça que symbolisait Barack Obama. 8 ans après. 8 ans après. Alors qu'il prévoyait, par exemple, de fermer la prison de Guantanamo. Elle est toujours ouverte. Alors qu'il promettait d'établir un système d'aide social pour tous, l'Obamacare. On se rend compte aujourd'hui que bien des assurances, médicaments, des assurances santé, ont augmenté de 30-40% à cause de l'Obamacare. C'est les Américains qui vivent ça. C'est pas Barack Obama, c'est pas les artistes qui ont défilé dans les rencontres, dans les réunions d'Hillary Clinton, des artistes qui sont un peu comme la classe extrêmement privilégiée de notre époque, qui s'habillent même par eux-mêmes, qui ont des tas de conseillers, des tas d'aides. Ils font pas leur épicerie, eux autres. Là. Ils gagnent des millions à vendre des disques, à faire des films, puis à parader dans les meetings d'Hillary Clinton. Puis c'est eux autres qui vont dire comment voter aux Américains. Aux Américains qui doivent payer leur épicerie, qui ont de moins en moins d'argent parce qu'ils ont eux aussi des impôts à payer, des taxes à payer, une assurance à payer qui a augmenté à cause de l'Obamacare. Et ils voient ces caricatures. Parce qu'on parle de la caricature de Donald Trump, mais il y a la caricature des autres, des démocrates, qui s'imaginent proches du peuple, mais qui mettent sur pied des fondations pour s'en servir pour payer des voyages. Ça, il y aura beaucoup de choses encore à dire sur la fondation, la Clinton Foundation. L'enquête n'est pas, d'ailleurs, je peux me tromper, mais il me semble que l'enquête n'est pas close concernant la Clinton Foundation. Le FBI a dit qu'elle arrêtait l'enquête par rapport au courriel au courriel de Clinton. Mais je ne sais pas ce qu'il en est de l'enquête sur la Clinton Foundation. Là, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire également. Mais c'est un autre sujet. Même si c'est un peu relié quand même. Il y a les réactions qui sont, moi, que je trouve toujours un peu amusantes. Il y a, par exemple, je vais citer le site de l'OJIM, qui est une sorte d'observatoire de journalistes, plutôt à droite. Mais ce qui est dit est pas mal bon. Il cite, par exemple, les réactions de journalistes. Je cite. Dans le registre burlesque, citons Stéphane Benoît Godet, rédacteur en chef du Temps de Genève, donc en Suisse, un quotidien ultra-conformiste de la Suisse francophone. Quelques qualificatifs pour Obama. Digne, intègre, n'a pas failli. Quelques épithètes charmants pour Trump. Sexiste, xénophobe, borderline, démagogue, menteur, tricheur. Il manque pédophile et pyromane. Et de se lamenter, c'est la fin de l'ère du politiquement correct. Et c'est ça le problème. Et là, il est question du Temps de Genève, mais on pourrait le dire également pour nos médias, pour Radio-Canada en particulier, pour LCN, TVA, pour La Presse, pour le Journal de Montréal. Obama, c'est quasiment le sauveur. C'est malgré 8 ans de faillite, 8 années où il n'y a pas eu grand-chose de fait par l'administration Obama, où dans quelques années, l'histoire nous dira que, dans le fond, la présidence Obama, ça a été une présidence morne. Je me souviens de cette photo d'il y a, je pense, 8 ans, où on voit une photo de Barack Obama à une tribune en train de parler, et puis c'était marqué en bas, tu sais, comme une sorte de mème. Comment dire ? Carter, maintenant disponible en noir. On fait référence, bien sûr, à l'ancien président, Jimmy Carter. Et c'est vrai. Aujourd'hui, 8 ans après, on se rend compte que c'était, oui, effectivement, une sorte de Jimmy Carter noir, avec également un grand fail au niveau international. Jimmy Carter a eu le scandale de la tentative de sauvetage des diplomates à Téhéran lorsqu'il y a eu la révolution islamique. Obama et Hillary Clinton ont eu leur Benghazi où ils ont laissé des diplomates et des militaires américains se faire tuer lâchement par la foule sans que la secrétaire d'État daigne lever son petit doigt. Alors quand je vois qu'on continue, en tout cas les médias continuent de glorifier Obama, et oui, il a une tête sympathique, oui, il parle bien, oui, il sait être drôle, mais c'est pas ça qu'on attend d'un président. Les Américains, là, ceux qui ont la difficulté dans la vie ou la classe moyenne, elles s'en foutent que le président paraisse bien. Ils veulent un président qui les aide. C'est sûr que lorsqu'on gagne quelques centaines de milliers de dollars, parfois des millions de dollars par année, que le président fasse quelque chose ou pas, ça fait pas de grande différence. Que le président ait un beau sourire ou pas, ça ne fait pas grande différence. Pour l'électeur moyen, c'est toute une différence. Quand il voit que on va dépenser des millions de dollars pour accueillir des gens de l'étranger, des migrants, alors qu'on ne dépense pas suffisamment pour aider des gens qui sont dans la rue, des Américains qui ont travaillé parfois, qui n'ont pas eu de chance. C'est ce qui se passe également en Europe. En Europe, de plus en plus de voix se lèvent en disant « Mais attendez, on a nos pauvres à nous, on ne les aide pas, on les laisse dans la rue, mais on est en train de faire des grands centres d'hébergement pour les réfugiés. » Des réfugiés qui, comme je le disais il y a quelques semaines, vont passer leurs vacances dans le pays qu'ils ont fui. Vous comprenez, l'électeur en général, et pas seulement l'électeur américain, l'électeur est tanné. L'électeur en a marre de voir les mêmes faces, d'entendre les mêmes discours. Et je pourrais vous reparler encore une fois du marketing politique qui a tué la politique. Donald Trump, lui, qu'il perde ou qu'il gagne, ça n'allait pas changer grand-chose à sa vie. Je veux dire qu'il ne se cherchait pas une job. Donald Trump, il s'est lui-même financé sa campagne électorale. Ça lui a permis d'ailleurs de faire un gros finger à l'establishment du Parti républicain. Parce qu'il n'y a pas que le Parti démocrate qui a perdu d'ailleurs dans cette élection. Le Parti républicain qui poussait Jeb Bush. On a échappé à ça, là. Ça aurait pu être une élection Clinton-Bush. On se serait rappelé des souvenirs. Jeb Bush, qui est pas un imbécile, mais qui a le charisme d'un sous-vert. Il est pas bon. En tout cas, il n'est pas bon pour faire de la politique, il n'est pas bon pour mentir, il n'est pas bon pour prêcher, pour soulever les foules. C'est sûr qu'il n'allait pas gagner, mais c'était le candidat du Parti républicain. Ils ont été le voir, et Jeb, il faut vraiment que tu y ailles. Oh, ça ne me tente pas. Et non, il faut que tu y ailles. Tu vas quand même pas laisser Donald Trump remporter l'élection. Donald Trump qui, au début de la campagne pour l'investiture républicaine, était donné pour 1% de chances de victoire. Là aussi, tu sais, on dit les sondages se sont trompés pour l'élection, mais ils se sont trompés pour Trump depuis le début. Il était donné perdant de la course à l'investiture républicaine. Il était donné perdant pour la présidence. Je n'aime pas Trump, je le répète. Mais il y a une chose qui me satisfait beaucoup, c'est de voir toute cette masse médiatique gluante, embourbée dans ses vieilles certitudes, toujours à vouloir paraître plus intelligent que les autres, à nous dire quoi faire. Tu sais, comme ces Marc Cassivide dans la presse, qui se croit au-dessus de la mêlée, qui donne des morales, qui fait la morale à tout le monde. Ah, ces Américains, ils n'ont rien compris. Patrick Lagacé qui nous dit un jour « Je suis Charlie » et puis l'autre jour, il nous dit qu'on n'a pas le droit de dire certaines choses, de penser certaines affaires. On devrait fermer notre gueule. À toute cette masse médiatique, les Anne-Marie Dussault, je comprends toujours pas pourquoi elle est encore à l'antenne de Radio-Canada. Ça doit être un programme. Radio-Canada doit recevoir une subvention en échange, c'est pas possible. Elle est nulle, mais elle est toujours là. Mais après, on s'étonne que Radio-Canada a des codes d'écoute qui descendent. Ça aussi, c'est un indicateur. Les gens en ont tellement marre des médias traditionnels. Tu sais, au début, t'as pas le choix. T'aimes pas écouter CNN, par exemple, quand t'es américain. Mais en même temps, à part CNN, il n'y a pas grand-chose. D'autres médias d'information sont arrivés, mais c'est la même soupe. Ah oui, évidemment, il y a Fox News qui détonne un peu. Mais à part ça, pas grand choix. Ici aussi, c'est pareil. Vous avez RDI, LCN, mais pour avoir une opinion différente, pour avoir quelque chose de différent. Je ferai le parallèle avec le débat sur le registre des armes du Québec, qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Ces gens qui sont supposés représenter tous les Québécois, alors que les Québécois étaient partagés. C'était quoi? Quelque chose comme 60-40. 60-40. Dans l'opinion publique, 100% à l'Assemblée nationale. 100% dans les médias. Quand on parle de registre des armes à feu, quand on regarde les médias, ça coule de source. Il faut soutenir le registre des armes à feu. C'est la même chose avec les élections américaines. On dit que Obama, digne, intègre. On dit de Clinton qu'elle a de l'expérience. C'est une femme. C'est une femme. Il faut voter pour elle, c'est une femme. On a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues en inventant des histoires de courriels. Puis, tu sais, il y a toujours un « mais » avec Clinton. Ah oui, il y a des scandales, mais c'est une femme. Mais elle a de l'expérience. Mais elle est brillante. Dans les médias québécois, européens, américains, ils étaient tous derrière Trump. D'ailleurs, je voudrais citer BFM TV. BFM TV, c'est une chaîne d'information française. Je pense que c'est la première chaîne d'information en France, d'information continue. Et un article sur le site de BFM TV nous dit que sur 200 médias américains, 194 avaient soutenu Hillary Clinton. Plus de 200 journaux ont pris position pour Hillary Clinton contre seulement 6 pour Donald Trump. Le prestigieux New York Times, quotidien américain le plus vendu, avait apporté clairement son soutien à la candidate démocrate dans un édito saluant son intelligence, son expérience et son courage. Même message affiché du côté du Los Angeles Times, qui parlait de catastrophe si Donald Trump était élu. Je cite « Hillary Clinton fera une présidente sobre, brillante et pragmatique », écrivait le quotidien. La moitié des Américains ont voté pour Donald Trump. Et ils étaient représentés par 6 médias contre 194. Au Québec, c'était encore pire. Tous les médias, il n'y avait pas un seul média qui était plutôt pro-Trump. Tous les médias, y compris Radio-Canada, qui est censé représenter une opinion l'opinion diversifiée des Canadiens. C'est son mandat. Aucun média privé décide d'aller pour un candidat plutôt qu'un autre. J'ai aucun problème avec ça. C'est l'argent des actionnaires. Si les actionnaires ne sont pas d'accord avec ça, eh bien, ils le diront. Mais un média public comme Radio-Canada, je trouve que la couverture qu'il y a eu de ces élections américaines est scandaleuse. Et je le répète, je soutenais aucun des deux candidats. Mais je comprends la réaction qu'ont eu les électeurs américains quand ils ont vu que les médias essayaient de leur vendre absolument Hillary Clinton. Et certains médias n'ont toujours pas compris. Ils continuent à nous dire que c'était une erreur, qu'ils n'ont pas compris le message d'Hillary Clinton, qu'ils n'ont pas vu le danger de Donald Trump. Hillary Clinton. Je voudrais quand même rappeler plusieurs affaires. on parle de Vince Foster. En juillet 1993, Vince Foster, conseiller à la Maison-Blanche, avocat associé et ami d'Hillary Clinton, est retrouvé à son domicile, à Virginia Park, tué par balle. Les enquêteurs concluent un suicide, mais les soupçons n'ont jamais été complètement dissipés alors que certains proches de Vince Foster avaient émis l'hypothèse que l'homme en savait peut-être un peu trop pour rester vivant. Et évoquaient le scandale du Travelgate comme une explication possible. Une semaine avant sa mort, des témoins racontent avoir assisté à une scène où Hillary Clinton s'est livrée à une véritable humiliation publique à l'encontre de Vince Foster. Des rumeurs persistantes, parfois étayées par plusieurs livres, leur prêtent une relation passionnelle et acceptée par Bill Clinton. On parlait du Travelgate. Au printemps de la même année, en 1993, 7 employés du bureau des voyages officiels de la Maison-Blanche sont renvoyés au motif de manipulation comptable. L'affaire révélée par la presse prend une ampleur alors que les Clinton sont soupçonnés de vouloir placer des proches à la tête du bureau des voyages. Le procureur indépendant ne retient aucune charge, faute de preuves suffisantes, mais relève toutefois des déclarations erronées d'Hillary Clinton, laquelle reste soupçonnée d'avoir joué un rôle central dans les licenciements. Les scandales du Whitewater. Sous l'appellation générique de Whitewater, on trouve un enchevêtrement d'affaires immobilières douteuses. Par extension, dans les années 70 et 80, Bill et Hillary Clinton investissent dans la société Whitewater Development Corporation. Les époux Clinton sont soupçonnés de création de sociétés fictives et même de détournement de fonds fédéraux alors que Bill Clinton est gouverneur de l'Arkansas. Les associés des Clinton dans cette affaire, Jim et Susan McDougall, lesquels ont bénéficié de prêts illicites, sont condamnés. Jim Guy Tucker, successeur de Bill Clinton comme gouverneur de l'Arkansas, fait de la prison pour fraude. Mais les Clinton ne font pas l'objet de poursuites. Susan McDougall est quant à elle graciée par Bill Clinton juste avant qu'il quitte la Maison-Blanche. Hein, bien pratique. Des grâces qui ressemblent à des renvois d'ascenseur, au point que la presse forge le terme de « Pardongate », le terme de « Whitewater » a fini par recouvrir de nombreux scandales, par exemple le « Filegate », autre scandale dans lequel les Clinton sont soupçonnés de s'être procuré des dossiers du FBI sur leurs adversaires politiques. C'est grave. On pense que les Clinton ont récupéré des dossiers du FBI sur leurs adversaires. Il y a un président américain qui était au courant que des micros étaient placés dans le quartier général démocrate qui a dû démissionner à cause de l'enquête. C'était évidemment Richard Nixon et c'était le Watergate. Mais eux autres, je pense que c'est bien pire. Mais ils ont pu finir leur mandat pour l'un, puis se présenter à une élection présidentielle pour l'autre. Affaire Paula Jones. Ah, Paula Jones. Dans les années 1990, Paula Jones travaille pour l'administration de l'Arkansas dont Bill Clinton est alors le gouverneur. En 1994, celle-ci porte plainte contre Bill Clinton pour harcèlement sexuel. Les deux parties arrivent à un accord le 13 novembre 1998. Paula Jones abandonne des procédures très compliquées, bien que le délit de harcèlement sexuel soit établi. Je le rappelle. Procédures très compliquées, bien que le délit de harcèlement sexuel soit établi. Conformément aux lois de l'Arkansas, il lui reste encore à démontrer qu'elle en a souffert. Le compromis avec 850 000 $ à la clé épargne Bill Clinton, alors devenu président, une procédure judiciaire dont l'impact médiatique aurait été dévastateur. En 2015, Paula Jones confie qu'elle était persuadée qu'Hillary Clinton était au courant du harcèlement sexuel, mais qu'elle avait toutefois fait bloc avec son mari. Enfin. Hillary Clinton et les snipers en Bosnie. Alors, première dame, Hillary Clinton rend visite aux troupes américaines lors de la guerre en Bosnie-Herzégovine. Ça, c'était entre 92 et 95. 12 ans plus tard, devenue sénatrice, l'ex-première dame se targue de s'être trouvée sous le feu des snipers à son arrivée à l'aéroport et d'avoir dû courir pour se mettre à couvert. Face au scepticisme croissant et les vérifications de la chaîne CBS, elle est obligée de revenir sur son récit hollywoodien, admettant avoir fait erreur. Je ne sais pas vous, mais moi, si un jour je suis pris sous le feu d'un sniper ou deux snipers au pluriel, je m'en rappellerai. Je me rappellerai de chaque seconde. Là, elle dit que dans le fond, ce n'était pas arrivé. Et puis, il y a des confirmations qui ont été faites. On a même retrouvé des images. Tu sais, ça me fait penser à ce journaliste de ce grand réseau américain. Je ne sais plus si c'est CBS ou ABC. Qui prétendait qu'il était dans un hélicoptère. Et puis, ça, c'était en Irak. Et qu'un des deux hélicoptères s'est écrasé sous ses yeux. Il a été pris sous le feu de combat. Et puis, il y a des Américains, des militaires américains qui étaient là avec lui, qui ont contacté la presse. On était là et puis il ne s'est rien passé de tout seul. C'était bien calme. Et puis, c'est ça. C'était une patrouille. Il était là comme journaliste et ça s'est terminé là. Ce journaliste a dû d'ailleurs, a été suspendu par son réseau. Je ne sais pas s'il est revenu à l'antenne. C'était quand même un anchorman, là. C'était un lecteur de nouvelles. C'est pas rien. J'ai sa face, je ne me souviens plus de son nom. Mais ça, ce n'est pas d'importance. Affaire Monica Lewinsky. Comme lors du scandale Paula Jones, quelques années plus tôt, Hillary Clinton fait montre d'une loyauté et d'une solidarité à toute épreuve. Alors que son mari fait face à une procédure d'impeachment et frôle la destitution par le Congrès américain, pour avoir menti sous serment au sujet de la nature de sa relation avec la stagiaire Monica Lewinsky. Hillary Clinton nie les faits en bloc et dénonce un vaste complot d'extrême droite. Par chance, Trump n'était pas encore là. Sinon, elle aurait trouvé un motif à cette histoire-là. Là, c'est sûr, ça ne concerne pas directement Hillary Clinton. Mais il y a quand même quelque chose de pourri dans cette famille. Bill Clinton n'était pas sur le bord de se faire démissionner par le Congrès parce qu'il avait eu une relation extra-conjugale avec Monica Lewinsky. Non. Il était sur le bord de se faire destituer parce qu'il avait menti sous serment. C'est une autre affaire. Dire aux médias que... il ne connaît pas cette femme et qu'il n'a pas eu de sexe avec cette femme, c'est une chose. Mais en tant que président des États-Unis d'Amérique, dire devant le juge qu'il n'y a jamais eu de relation sexuelle avec Monica Lewinsky, ça c'est grave. Mentir sous serment, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Pour finir, pillage de la Maison Blanche. Lorsque l'administration Bush prend possession de la Maison Blanche en 2001, de nombreux faits de dégradation, vandalisme et vol sont signalés. Les époux Clinton sont alors soupçonnés d'être partis pour leur résidence de New York avec du mobilier et d'autres œuvres d'art et de bibelots pour la coquette somme de $190,000. Les accusations se révèlent exactes et les Clinton se voient obligés de rendre les objets et faire profil bas. Alors vous comprenez, quand on voit des journalistes américains, québécois, canadiens, européens, nous dire à quel point Hillary Clinton est quelqu'un d'intègre, qui a de l'expérience. Et quand on voit que le mandat de Bill Clinton a fini par un vol de bibelots et de mobilier à la Maison-Blanche pour un montant de pratiquement $200,000. Ça, c'est une goutte par rapport à l'ensemble de l'œuvre des Clinton. Ils ont toujours réussi à s'en sortir. Toujours. Jusque-là. Malgré les enquêtes, malgré les procédures d'impeachment, malgré les vols, malgré tout ce qui s'accumule depuis le début de la carrière d'Hillary Clinton, ils sont toujours arrivés à se faufiler entre les gouttes. Puis, on ne sait pas ce qui serait arrivé, ce qui serait advenu si elle était devenue présidente des États-Unis. On l'a vu dans une des enquêtes où Bill a blanchi, a gracié. Je vais le retrouver. A gracié Suzanne McDougall. Juste avant que Bill ne quitte la Maison-Blanche, on imagine que Hillary aurait peut-être également agi soit sous l'éclairage des médias, mais aussi sous la table pour essayer de s'en sortir de certaines des enquêtes. Par chance, les Américains, eux, les électeurs, ceux qui sont censés plutôt avoir le pouvoir, eux ne se sont pas fait berner par les médias. Eux ont décidé de repousser Hillary Clinton. Le problème, c'est que la personnalité qui était en face est plutôt incertaine. Je ne peux pas vous dire que je suis enchanté par l'élection de Donald Trump. De la même façon, je n'aurais certainement pas été enchanté par l'élection d'Hillary Clinton. Avec Donald Trump, nous sommes dans l'incertitude. Je crains la renégociation de l'ALENA, par exemple. Justin Trudeau, d'ailleurs, en parlant de Justin Trudeau est ouvert à réouvrir les accords de l'ALENA. Et puis, ça pourrait être une bonne chose. Je veux dire, négocier entre personnes responsables, intelligentes et qui ont du bon sens, je n'aurais pas trop à craindre. Les accords de l'ALENA ont été signés bien avant l'avènement du commerce électronique, à une époque où le commerce se faisait d'une certaine façon. Aujourd'hui, en 2016, il y a certainement des choses à modifier, à améliorer dans les accords de l'ALENA. Le problème, c'est que les deux personnes qui vont... deux des trois personnes qui vont être assises l'une en face de l'autre pour renégocier, ça va être un Justin Trudeau et un Donald Trump. Si Donald Trump a envie d'imposer quelque chose, croyez-vous vraiment que Justin Trudeau sera de taille à s'y opposer? On va négocier ça, c'est sûr, ça va durer des mois, c'est normal. C'est pas parce que les personnes impliquées ne sont pas forcément compétentes. C'est des milliers de pages à renégocier, des choses à rajouter, d'autres à supprimer. C'est normal que ça va prendre du temps. Ça sera peut-être d'ailleurs le principal chantier de la présidence Trump. Ce dont j'ai peur, c'est les concessions que le Canada va devoir faire. Et elle devra en faire. En parlant donc, je disais, de Justin Trudeau, je pense que c'était déjà au dernier épisode, j'avais quelque chose de positif à dire sur Justin Trudeau. Eh bien, figurez-vous que je vais vous en dire une autre. J'ai apprécié, le retrait de Justin Trudeau par rapport à la présidence américaine. J'ai apprécié le fait qu'il dise, de répondre aux questions des journalistes, de dire « Je ne veux pas prendre position pour les élections américaines, je laisse le peuple américain décider, c'est leur élection. » Ça, c'est l'attitude d'un chef d'État. Quand on voit des Jean-François Lisée prendre dans ses bras une pancarte à l'effigie d'Hillary Clinton et de donner un coup de poing dans celle de Donald Trump, ça, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui souhaite devenir chef d'État. Je ne veux pas non plus parler des attitudes totalement irresponsables des maires Labeaume et Coderre, qui ont, de façon publiquement, pris position pour Hillary Clinton. Je tiens quand même à dire qu'il y a des milliers de touristes américains qui viennent à Québec et à Montréal chaque année. Puis là-dedans, il y a des électeurs de Donald Trump. En privé, on peut avoir toutes les opinions qu'on veut, mais à partir du moment où l'on représente une ville, une province, un parti d'opposition, puis même chose pour Philippe Couillard, qui n'a pas été ben mieux. Hein. Il a été plus prudent, mais ça a fini par « c'est sûr que je préférerais que ce soit Hillary Clinton ». Encore une fois, l'attitude la plus responsable n'est pas venue de la personne qu'on attendait. Justin Trudeau a agi en personne responsable. C'est sûr que, regarde, entre vous et moi, vous pensez qu'il est content que Trump soit élu? Tu sais, c'est fini, là, les séances de photos dans le bureau ovale avec Tonton Barack. Terminé, les parties de yoga entre Sophie Trudeau et Michelle Obama. C'est sûr qu'il n'est pas content, c'est sûr qu'il... Ça aurait été aussi différent avec Hillary dans le bureau ovale. Hillary reste une personne froide, austère. Mais ça, on n'en parle pas trop dans les médias. Hein. Elle est intelligente, intègre et elle a de l'expérience. Mais c'est quelqu'un de plutôt froid, qui ne plaisait pas. Elle n'a pas... N'importe qui contre Hillary Clinton aurait gagné. J'en suis sûr. N'importe qui. Elle n'était pas aimée. Elle était même détestée d'une partie des Américains. Et puis, je vous en avais parlé, je pense, il y a quelques semaines de ça. Je pense que c'était la seule fois, d'ailleurs, où j'ai parlé des élections américaines ou des 15 dernières années, c'est-à-dire depuis le début du 21e siècle. Hillary Clinton et Donald Trump étaient les deux candidats les plus détestés de toutes les élections américaines depuis 15 ans. On parle de tous les candidats, là, pas juste ceux qui ont été élus. Et ils étaient détestés de très loin. Évidemment, il y avait une avance pour Donald Trump, mais Hillary Clinton n'était pas très, très loin. Et puis, dans les opinions positives, aux mêmes périodes de temps leur candidature, il y avait des George Bush, fils. Tu sais... Oui, les élections ont été surprenantes, mais pas tant que ça. Les gens avaient un véritable ras-le-bol. Les gens voulaient se sortir effectivement, de ce politiquement correct. Ce journaliste qui nous dit, que j'ai cité tantôt, je vais essayer de le retrouver, qui nous dit... Un journaliste donc de la Tribune de Genève nous dire qu'il se lamentait parce que c'était la fin de l'ère du politiquement correct. Mais je suis content pour ça. Le politiquement correct a complètement gangréné notre société, nos sociétés, depuis les années 80 à peu près. On ne peut plus parler même de certains sujets. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de parler d'immigration. Parce que si on parle d'immigration, on est raciste. Pardon. On n'a pas le droit de parler d'insécurité. Parce que l'insécurité, désigner, dans le fond, des personnes qui ont de la difficulté socialement. C'est les plus pauvres qu'on désigne quand on parle d'insécurité. Pardon? On n'a pas le droit de parler, par exemple, d'avortement. On n'a pas le droit de parler de peine de mort. Ce n'est pas parce qu'on est pour ou contre certains sujets qu'on n'a pas le droit juste d'en parler. Le monde évolue. Le monde a évolué. À un moment donné, on pensait de telle façon, puis maintenant on pense d'une autre manière. C'est normal de se re-questionner. Si on part du principe qu'il y a certains sujets qui doivent rester tabous, qu'on ne peut plus toucher, qui deviennent c'est Gilles Proulx qui parle souvent des vaches sacrées. Les vaches sacrées, tu sais, on ne peut plus toucher au syndicalisme. On ne peut plus toucher à l'immigration. Pourquoi donc? Le monde ne bouge pas, le monde est... Tu sais, c'est un peu comme le... Je reviens au débat sur les taxis, Uber, Airbnb. C'est le progrès social est défendu par des gens extrêmement conservateurs. Puis je ne parle pas de conservateurs au niveau politique. Je parle dans le sens de ne pas vouloir bouger les choses. Ceux qui défendent le progrès social, c'est-à-dire la gauche, les démocrates aux États-Unis, les gens de Québec solidaire ici, le Parti québécois, les syndicats, ceux qui nous disent à longueur de temps qui défendent le progrès social sont ceux qui ont le plus les pieds pognés dans le béton. On leur dit qu'on veut changer les choses. Ah non, 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 on ne touche pas, ce sont des acquis sociaux. On ne touche pas à ça. Mais ils défendent le progrès social. N'oubliez jamais que le progrès, c'est d'avancer. C'est un mouvement. C'est que ce qui est valable aujourd'hui ne le sera plus forcément demain. C'est du progrès. Eux autres, non. Ils veulent garder leurs acquis. Ils veulent rester comme ça, avec leurs privilèges. On vit une crise. Il y a des gens qui perdent leurs emplois. On envoie des emplois à l'étranger. Mais nous, on veut continuer à être payés grassement et avoir des avantages sociaux énormes. Quitte à faire perdre des emplois. Le vote des Américains, mardi, c'était aussi contre ça. Mais on ne vous le dira pas. Les médias, ça continue à dire les Américains ont voté avec leurs pieds. Ils n'ont mal voté. Ils n'ont pas compris le discours. Comprends pas. Puis là, ça devient très amusant avec ces manifestations à droite et à gauche. Anti-Trump. Y compris à Montréal, il y a eu une... Mais oui, riez pas. Il y a eu une centaine de personnes dans les rues de Montréal pour dénoncer l'élection de Donald Trump. Entre vous et moi, c'était juste une centaine de carrés rouges qui avaient envie de manifester, histoire de voir s'ils n'avaient pas perdu la main. C'est un non-événement. Je me demande pourquoi des médias, d'ailleurs, en ont parlé. À part, peut-être, c'est drôle, c'est amusant. Ces médias, donc, qui nous disent qu'on n'a rien compris. Ces médias qui nous disent que... Ces mêmes médias qui nous disaient... C'est ça où je voulais en venir. Qui trouvait irresponsable. Tu sais, à un moment donné, Donald Trump a dit, vu toutes les enquêtes qu'il y a autour d'Hillary Clinton, puis vu toutes les magouilles qu'il y a avec les médias, je ne suis pas sûr de reconnaître ma défaite si jamais je perds. Puis là, ça avait été un scandale. Tous les médias s'étaient déchaînés en disant « Mais Trump est irresponsable de dire ça. Trump est irresponsable de dire qu'il ne reconnaîtrait pas la victoire d'Hillary Clinton. » Ces mêmes médias aujourd'hui remettent en cause l'élection de Donald Trump. Et ça va dans le sens de toutes ces manifestations qu'il y a en ce moment aux États-Unis. Ces gens-là qui disaient « c'est irresponsable que Donald Trump ne reconnaisse pas », évoquent même la possibilité de ne pas reconnaître l'élection de Hillary Clinton, ils font exactement la même chose parce que leur candidat n'a pas gagné. Quand ils gagnent, l'électorat est fabuleux. Regardez ce qui s'est passé lorsque Barack Obama a été élu. C'est fantastique, le peuple américain qui s'est réveillé, qui a voté pour un président noir. Le premier noir. Lui qui n'a absolument rien fait pour sa propre communauté. Noir. Mais qu'importe. Hope. Yes, we can. Des belles petites valeurs avec des belles petites fleurs autour. Un président souriant. Tu sais, un peu comme ici avec Jack Layton, le candidat avec qui j'aimerais prendre une bière. Eh oui, j'aurais aimé prendre une bière avec Jack Layton, très sympathique. Mais est-ce que ça faisait de lui un bon premier ministre? Absolument pas. Et je reviens sur ce que je disais au départ, lorsque la journaliste française du Figaro nous disait qu'on n'avait pas vraiment compris le phénomène Trump et que Trump avait vu que la politique était devenue un cirque et qu'il en a profité, qu'il a fabriqué une image qui collait avec la réalité, avec aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui on se texte des mèmes, on se texte des petites phrases de 140 caractères sur Twitter. On n'a pas le temps d'élaborer en 140 caractères. Trump, il l'a compris. Il envoie chier tout le monde à coups de Twitter, de tweets sur de 140 caractères. Parce qu'il sait qu'on va parler de lui, il sait qu'on va retweeter ça. Il sait que les médias vont en parler. Parce que je vous disais tantôt, sur 200 médias américains, 194 soutenaient Hillary Clinton. Par contre, entre janvier et septembre, 822 minutes de temps d'antenne sur les trois principales chaînes ont été consacrées à la campagne républicaine contre 386 pour la campagne d'Hillary Clinton. Mais parce que Trump l'a compris avant tout le monde, surtout avant Hillary Clinton, que c'est l'image qui compte. C'est pas le fond. Le fond, on s'en sacre. Puis, je parle pas des électeurs, je parle des médias. Lui, il va le dire à la tribune. Je vais défendre la classe moyenne. Je vais défendre ceux qui ont perdu un emploi. Les médias, ils vont reprendre les petites phrases assassines. Mais à qui? Comment dire, la classe moyenne, pour la classe moyenne, qui est le candidat qui parle le plus son langage? Est-ce que c'est Hillary Clinton avec ses brochettes de vedettes millionnaires? Ou est-ce que c'est quelqu'un comme Donald Trump, milliardaire, c'est vrai, mais qui parle leur langue? Il parle comme eux. Il a compris le problème. Est-ce qu'il va le résoudre? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il va choisir les bonnes solutions pour régler tous les problèmes aux États-Unis? C'est pas dit. Est-ce qu'il aura assez de 4 ans pour juste récolter les premiers fruits de ses politiques? Aucune idée. Ça va pas être facile. On va le voir. Ça se trouve, dans 4 ans, il y aura une toute autre élection présidentielle et puis avec peut-être d'autres candidats même. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais aujourd'hui, les perdants, sont les médias, parce qu'ils étaient pratiquement tous derrière Clinton, les sondeurs, parce qu'ils n'ont absolument rien vu venir. Ça a été une pseudo-élite qui veut tout contrôler, qui veut tout garder pour elle, un peu comme des syndicats qui sont, comme je le disais tantôt, les pieds dans le béton armé. Et là, je vois que ça fait quand même 1h15 que je suis en train de vous parler de politique américaine. Il y en a peut-être, oui, j'en vois dans le fond qui sont en train de bâiller. Donc, on va faire une petite pause musicale. Puis on se retrouve tout de suite après.
They're the in crowd, we're the other ones. It's a different kind of cloth that we're cut from. We let our colors show where the numbers ain't. We're the paint where there ain't supposed to be paint. That's who we are. That's how we roll. The outsiders. The outsiders.
Vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions, n'hésitez pas à m'adresser vos courriels à l'adresse suivante podcast@commercialquebecpresse.com, podcast@commercialquebecpresse.com. québecpresse.com.
Eh oui, on est de retour, toujours pour parler d'élections américaines. La toune qu'on a entendue tantôt, c'est Eric Church, The Outsiders. Une toune que j'aime beaucoup, un peu genre... j'aime assez le western rock, country rock. Je ne sais pas trop comment appeler ce style. Oui, pour revenir donc... aux élections américaines, je voudrais vous partager l'édito de Lise Ravary. Vous le savez, si vous êtes à l'écoute du radioblog depuis quelque temps, vous savez que j'apprécie Lise pour ses chroniques. Et souvent, pas tout le temps, mais souvent, je suis pas mal d'accord avec elle. Et elle résume pas mal ce que je vous ai expliqué tantôt. Sa chronique s'appelle « Déconnexion fatale ». Elle écrit ça cette semaine, je ne me souviens plus quel jour. Je pense que ça devait être le lendemain de l'élection, j'imagine. Je cite Lise Ravary. J'ai saisi à quel point Hillary Clinton était déconnectée de l'humeur de l'Amérique et de la classe moyenne quand je l'ai vue sur scène la semaine dernière avec Beyoncé, glamour comme il se doit, et son mari Jay-Z. L'Américain moyen qui a perdu sa maison en 2008, la serveuse qui vit dans son Ford Focus 1996, le diplômé au chômage étouffé par 100 000 piastres de dette d'études et le fermier en faillite du Wyoming se fichent bien de l'appui de richissimes vedettes à la candidate démocrate. Les Américains qui ont voté pour Donald Trump croient que leur pays est, comme eux, au bord du gouffre. Leur devoir d'achat a chuté, ils craignent l'effondrement de ses valeurs fondamentales, famille, libre entreprise, sécurité et libertés individuelles, ils sont en mode survie. Contrairement aux Québécois, les Américains ne s'attendent pas à ce que l'État crée des programmes pour régler leurs problèmes, mais à ce que l'on les laisse bâtir leurs rêves américains en paix. Ils préfèrent un président chef d'orchestre à un président chef cuisinier qui met ses doigts dans tous les plats. C'est pas mal le résumé de 1. De ce que je pense, de 2. De effectivement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit mardi? C'est un clash, une fracture profonde entre une politique du passé qui était personnifiée par Hillary Clinton et dans le fond, ce que les Américains veulent, c'est-à-dire un coup de balai, un grand coup de balai. L'autre chose dont je voulais vous parler avant de terminer cette émission, c'était vous dire à quel point on veut vraiment être bon, être meilleur que les Américains, puis surtout vraiment insister sur le fait qu'il y a une bonne partie des Américains qui ne veulent pas de Donald Trump. Illustration. Sur Twitter, sur Facebook, tout le monde a entendu parler de... Du site internet d'Immigration Canada qui était down. Et au mot-clé qui était utilisé sur Twitter particulièrement, et les mots-clés, les recherches dans Google par exemple également, qui étaient comme « How to move to Canada ». Et là, ça a été monté en épingle par la bonne gauche et les médias en disant « Regardez, les Américains vont en masse immigrer au Canada parce qu'ils ne veulent pas de Donald Trump. » Tu sais, on était en plein dans un processus démocratique où les gens s'étaient exprimés librement par leur vote et déjà, tu avais une classe médiatique et la gauche qui était prêt à sauter sur n'importe quelle occasion pour montrer « Haha, vous voyez, les Américains veulent s'en aller. » Non, mais ils n'avaient qu'à voter. Mais c'est pas ça. C'est pas ça le plus drôle. Et là, je voudrais saluer Tristan Péloquin. Parce que Tristan Péloquin, qui travaille à la presse, aurait très bien pu mettre ça de côté puis même pas en parler. Puis tout le monde serait resté sur l'impression qu'il y avait une vague d'Américains qui souhaitaient immigrer ici au Canada. Mais lui, Tristan Péloquin, a fait ses petites recherches. Et je cite son article qui est intitulé « Buzz viral, non, les Américains ne rêvent pas du Canada ». Il est vrai qu'au cours de la nuit et tôt ce mercredi matin, le site d'Immigration Canada a connu une panne temporaire en raison d'une augmentation importante du volume du trafic, a reconnu le ministère. En matinée, les tweets contenant Immigration Canada étaient au deuxième rang dans les tendances les plus populaires sur Twitter dans la région montréalaise, juste derrière le mot-clic « President Trump ». Donc, Tristan Péloquin nous explique que dans le fond, il y a effectivement eu beaucoup de mots-clics ou de recherches reliées à l'immigration au Canada. Et on aurait pu croire, effectivement, si on ne cherche pas trop, qu'il y avait une vague à venir d'immigrants américains au Canada. Je continue l'article de Tristan Péloquin. Or, en fouillant un peu plus sur le site de Google en fait, on découvre que les recherches pour cette expression provenaient surtout de Singapour, de l'Australie et en troisième lieu du Canada. Les Américains, eux, arrivaient au huitième rang des pays qui s'intéressaient à la panne du site d'Immigration Canada. Depuis mardi soir, moment où il est devenu clair que Donald Trump allait l'emporter, des milliers d'internautes ont aussi entré dans le moteur de recherche de Google la requête « How to move to Canada ». Or, d'après Google Trends, ce sont en premier lieu des internautes situés au Canada qui ont questionné Google à ce sujet. Pour Luc Dupont, chercheur membre de l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques, il est clair que ces données démontrent qu'on vit dans une culture très « trash » sur Internet. Je pense que ça fait du bien aux Canadiens de penser que les Américains veulent déménager chez nous, mais je n'y crois pas du tout, dit-il. On assiste à une sorte de phénomène d'auto-congratulation, un peu lié au fait que, fondamentalement, même le Canada anglais partage la même langue, la même culture populaire et la même musique avec les Américains. Nous n'aimons pas les États-Unis. C'est ça l'affaire. On a peut-être la même langue, mais on ne les aime pas, les Américains. Donc, c'était le fun de voir, dans le fond, s'ils s'intéressaient vraiment à nous. Et puis, on voulait voir de quelle façon ils allaient s'en venir et quelles recherches ils faisaient pour s'informer sur les moyens d'immigrer au Canada. Benoît Descaries, spécialiste du référencement sur le web, prévient pour sa part que ces recherches sont généralement des tendances très éphémères. L'intérêt pour l'immigration au Canada peut très bien, selon lui, provenir d'un simple tweet qui a été fortement partagé. Fait à noter, quand on recule dans les archives de Google, on apprend que la requête Canada Immigration a connu son sommet ultime de popularité en novembre 2004, lors de l'élection de George W. Bush. Et c'était curieusement les internautes camerounais qui s'intéressaient à la chose, suivis de près par les Canadiens. Les internautes américains, eux, n'apparaissaient même pas dans les listes. C'est assez particulier. À chaque élection américaine, il y a cette rumeur qui dit que des Américains vont s'installer au Canada. Rumeur qui est moins forte lorsque c'est un président démocrate, beaucoup plus forte quand c'est un président républicain, pour la simple raison que ce sont les médias qui, eux-mêmes, mettent de l'avant ce fait. Sauf que, comme on le voit et comme le dit très bien Tristan Péloquin, c'est même pas, les Américains ne s'intéressent même pas à ça. Ils ne s'intéressent même pas à l'immigration au Canada. Tu sais, les Américains, là, ils sont un peu comme nous. Ils ne sont, veulent pas nécessairement déménager, et puis quand ils déménagent, c'est vraiment pas très, très loin. Vous savez, pour bien des Américains, des Californiens ou des gens de New York, déjà le Vermont, c'est quasiment le pôle Nord pour eux. Alors, imaginez pas qu'ils veuillent venir s'installer au Canada. Autre fait à savoir, c'est que en admettant même qu'il y ait des Américains qui soient intéressés de venir vivre ici, ça prend un an et demi à deux ans avant de devenir résident permanent canadien. Donc, si un Américain remplit les premiers formulaires pour devenir résident permanent aujourd'hui, il faudra qu'il attende quasiment les élections de mi-mandat pour avoir son visa et pour venir s'établir au Canada et commencer à chercher du travail. Entre vous et moi, s'il y a des Américains qui étaient vraiment intéressés par quitter les États-Unis, c'était surtout sous le coup de l'émotion et que tout ça va rentrer dans l'ordre d'ici quelques jours, si ce n'est déjà pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'était le fait amusant de la soirée électorale. Voilà, je pense qu'il y aurait évidemment énormément de choses à dire sur les élections américaines et sur les impacts que cela va avoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et même voire dans les prochaines années. S'il y a quelque chose qu'on peut dire en conclusion, c'est que pour toutes les élections, quelles qu'elles soient, que ce soit aux États-Unis, mais aussi dans n'importe quelle autre démocratie, il y a toujours un grand décalage entre ce qui est dit pendant la campagne électorale et ce qui est fait lorsque les gens sont élus. Puis on le dit tout le temps, un tel ne tient pas ses promesses, les hommes politiques ne tiennent pas leurs promesses. Puis c'est parce que il y a toujours une confrontation entre les rêves et la réalité. Combien de fois on a entendu un homme politique se faire élire, se dire « Oui, je n'ai pas mis en place mes promesses électorales parce qu'une fois rendu au pouvoir, j'ai découvert que la situation était plus terrible que je l'avais pensé. » Combien de fois on l'a entendu ? Que le précédent gouvernement a caché des déficits, que le précédent gouvernement n'a pas donné un bon état de la situation du pays. C'est quelque chose de régulier, c'est quelque chose qui arrive souvent. Puis Donald Trump le dira aussi. Donc il faut bien faire la part des choses et on va voir, à mon avis, puis on a déjà commencé à le voir lorsqu'il a rencontré le président en exercice Barack Obama, lorsqu'il l'a rendu visite à la Maison-Blanche, on a déjà vu que son discours était différent. Même son discours de victoire a été très consensuel, où il a remercié Hillary Clinton de l'avoir appelé, de l'avoir félicité pour leur victoire, et il a remercié Hillary Clinton pour ses années de travail, pour son travail acharné, il a agi comme n'importe quel autre politicien. Donc, pour revenir à l'article du début d'émission du Figaro de Laure Mandeville, Trump, on va s'apercevoir que Trump, c'est deux facettes. Une facette publique qui se crée un personnage qui est parfois détestable, arrogant, plein d'ego, puis un personnage moins public qui est plus à l'écoute et qui sera sans doute beaucoup plus consensuel. Ça va être intéressant de voir, dans le fond, la différence entre Dr. Trump et Mr. Donald. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Mais une chose est sûre, moi je ne comprends pas trop l'attitude des médias contre Donald Trump parce que Donald Trump va leur donner du travail pour les quatre prochaines années facile. Les caricaturistes, les comiques, les comédiens, les journalistes vont avoir du contenu. Leur travail va être assuré pour les quatre prochaines années grâce à Donald Trump. Et puis nous aussi, on va en parler de temps en temps. Peut-être moins qu'à RDI, En tout cas, je vais toujours essayer d'avoir un discours objectif. Non, pas nécessairement, parce que ça reste un podcast d'opinion. Mais en tout cas, donner un autre son de cloche, une autre tonalité. Quelque chose d'un peu différent de ce que l'on peut écouter dans les médias mainstream. Je vais continuer à le faire. Et puis, comme toujours, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, si vous avez des critiques aussi à formuler, n'hésitez pas à m'en parler. Donc, je vous rappelle la page Facebook de Québec Presse. Un petit like là-dessus quand vous arrivez sur la page de Québec Presse. Et puis, à partir de là, vous pourrez m'envoyer un message privé. Les courriels, bon vieux courriel, podcast@commercialquebecpresse.com. Je vous rappelle également l'adresse de mon compte Twitter, @commercialqcpresse, tout attaché, @commercialqcpresse. Voilà ce qui clôture donc cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Radioblog avec d'autres sujets. Il y a des sujets que j'ai dû mettre sur la glace, vous comprendrez. Aisément. Cette émission était déjà assez lourde, assez condensée, je dois dire, mais il y avait tellement de choses, et il y a tellement de choses à dire sur l'élection Donald Trump. On se laisse en musique, comme à chaque fois, avec du bon vieux rock des années 70, comme je l'aime. C'est le groupe Babe Ruth, ça s'appelle The Mexican. Cherchez pas à faire de parallèle avec la victoire de Donald Trump, il y en a pas, forcément. Bonne semaine à tous, amusez-vous bien. Bye bye. Go.